L'information se retrouve aussi tous les jours sur RadioCapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. RadioCapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
La violence a pris de l'ampleur ces dernières années dans les stades. Parfois, les débordements se transforment en drames. C'est le cas, par exemple, des violences enregistrées récemment au stade de Kananga lors d'une rencontre sportive. Bousculade, sortie du stade à la sauvette, bagarre généralisée, confusion et mort d'homme. Comment prévenir la violence dans les stades, et pas seulement dans les stades, et même au cours de tout rassemblement, des masses dans un lieu public? Nous recevons à présent, depuis Lubumbashi, le professeur Idel Fonse Kinyama, il est psychologue et criminologue. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, professeur, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir la violence dans les stades ou autres lieux de rassemblement des masses?
Oui, merci beaucoup. D'abord, il faudra qu'on passe par la déclamatisation, quoi. Le fait de violence qui se constate dans les stades ou ailleurs relève des faits et symptomatiques à la violence qui peut se manifester dans le milieu social. Mmh. Et puis, il faut vraiment pas considérer que c'est spécifique au Congo, parce que partout ailleurs, ces faits de violence se sont toujours manifestés. Vous avez les exemples des stades d'Égypte, des stades en Belgique, les exemples de bousculades lors des pèlerinages, etc. Mmh. Voilà, donc, de ce point de vue, il faut considérer que cette violence existe et continuera à exister. Voilà.
Donc partout il y a un rassemblement de personnes, la violence est toujours au rendez-vous.
Oui, tout à fait, parce que au fait, il faut d'abord considérer que tout attroupement de gens ou regroupement de personnes dans un milieu est lié aux phénomènes qui sont assez étudiés en psychologie et qui sont liés au phénomène de groupe. Mmh. Et notamment les rassemblements, par exemple, au sein des stades, ça peut se constituer, en fait, comme je l'ai dit autrefois, le stade, il faut d'abord le considérer comme un microcosme social. Et dès lors que ces rassemblements répondent à certains phénomènes de groupe, ces phénomènes de groupe sont suivis ou produisent souvent des effets tout à fait psychologiques, et notamment la violence. Et donc, les gens qui se réunissent au stade, ils peuvent constituer une foule. Mmh. Une foule, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui se réunissent en grand nombre, ça peut être plusieurs centaines ou plusieurs milliers, à un même endroit. En fait, ils ne recherchent pas explicitement à se réunir, hein. Personne n'a contacté tel pour qu'ils se réunissent. Mm-hmm. C'est peut-être qu'ils se réunissent autour d'un événement, ça peut être un match de foot, etc.
Alors, professeur, nous savons que ce n'est pas dans toutes les rencontres qu'il y a des scènes de violence. Il y a certains rassemblements où les gens ils participent calmement, paisiblement, et à la fin, il n'y a pas de problème. Alors, quels sont les facteurs qui sont souvent à l'origine des violences dans les stades ou dans les lieux de rassemblement populaire?
Oui, il y a plusieurs facteurs qui sont d'ailleurs très complexes. Et ça peut être des événements imprévisibles qui se produisent. Oui. Par exemple, le cas de Kananga, il semble que c'est un policier qui a tiré. Et lorsque cet événement se produit, il y a une propagation des émotions qui peut être à la base de la production des effets de bousculade et tout ça. Il y a aussi, par moment, au sein des stades, il y a toute la question de l'injustice ressentie par un camp ou un autre. Hein. Mm-hmm. Il faut lier à la décharge émotive qui caractérise la foule elle-même, mais aussi au manque parfois de professionnalisme et à la fois de nos arbitres et tout ça.
Donc quand il y a des erreurs...
De l'anonymat.
Mm-hmm. Oui. Les erreurs d'arbitrage peuvent conduire à la violence.
Oui, c'est un événement imprévisible parmi tant d'autres, mais il y a aussi toute la question de, quand on entre dans la question finalement de la prévention, mais il y a toute la question architecturale aussi du stade ou de l'aménagement du territoire qui peut constituer un facteur potentiel de dérapage, quoi. Voilà. Mais de prime abord, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui caractérise ce groupe qui est au stade. C'est comme je l'ai dit, c'est une foule. Chacun se retrouve là en train de chercher à satisfaire une motivation. Ça peut être la même. Et cette motivation peut être parfois négative. Et l'événement lui-même peut être très excitant. Notamment un match de foot, c'est un événement à forte décharge émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui caractérise par exemple un milieu comme celui-là, la foule? Ça peut être l'absence ou la faiblesse des niveaux de contacts sociaux entre les gens ou des relations interhumaines qui peut faire que les gens évoluent finalement dans ce groupe comme en plein anonymat, quoi. Il y a la contagion des émotions et la propagation rapide à l'ensemble d'une agitation qui peut naître à un point donné. Par exemple, ça peut être, comme on l'a dit, un militaire qui tire. Mais cette agitation qui se produit à ce point-là peut se propager très rapidement à l'ensemble du groupe. Il y a aussi le fait que quand on se retrouve dans cette foule-là, il y a toute une simulation latente qui peut être produite par la présence massive des autres. Ainsi, vous allez trouver des gens, même ceux à caractère apparemment timide, qui sont portés à plus de simulation à tout moment. Et évidemment, il y a toute la question de... Ça peut être aussi l'apathie. Il faut regarder quand les gens supportent une équipe et quand on a marqué dans leur camp, comment le calme ou le silence s'abat dans le camp.
Dans le camp, oui.
Tout ça sont, dans le camp qui a été gagné. Donc, il y a tout ce phénomène-là qui explique le phénomène de foot.
Bien. Nous avons déjà quelques auditeurs en ligne. Nous allons les accueillir tout à l'heure. Nous parlons de comment prévenir la violence dans les stades et autres lieux des rassemblements des masses. Professeur Ildefonso Kinyama, psychologue et criminologue, intervient depuis Lubumbashi dans la province du Katanga. Lumabo nous appelle de Butembo. Et Monsieur Jetou est en ligne depuis Kananga. Vous voulez également participer. Composez le 081-890-63-94.
C'est parce que Radio Capuine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapi.net.
Comment prévenir la violence dans les stades et autres lieux de rassemblement des masses? De masse, Lumabo, vous êtes à Butembo. Bonjour.
Bonjour.
Et quelle est votre question?
Mon nom, c'est Lumabo, pas Lumabo, c'est Lumabo.
Lumabo, on vous écoute.
Oui, je remercie d'abord tous les intervenants et les auditeurs de la radio aussi.
Allez-y, on vous écoute. Quelle est la question?
Oui, pour moi, c'est une sujet. Vous connaissez que selon la psychologie, on dit qu'il n'y a pas des hommes qui sont identifiés des jumeaux, qui sont des frères jumeaux. Chacun a ses tempéraments. C'est pourquoi ce que moi je vais suggérer, dans un lieu public, il faut quand même qu'on parvienne à veiller sur ceux-là qui sont ivres. Parce que si vous les veillez, vous savez qu'ils prennent de l'alcool, à ce moment, c'est eux-mêmes qui parviennent quand même à mettre un problème ou bien un défaut dans un lieu public. C'est pourquoi nous voulons vraiment préciser quand même, avant que dans un lieu public, vous puissiez avoir ces gens et à les mettre à l'écart, soit à ne pas. Qui ne puisse pas entrer dans un stage, soit dans un lieu public, pour ne pas troubler l'autre public.
Donc, vous suggérez qu'on empêche à toute personne qui a déjà pris de l'alcool de ne pas accéder au stade. Alors, comment le savoir?
Oh, parce que vous voyez directement celui qui est ivre, il se voit. Il se voit, vous pouvez voir ses comportements et aussi comment il va se manifester dans un groupe. Parce qu'il y a un petit jeune comme ça, vous trouverez que directement il commence à agir.
Donc, le moment de.
Avec de telles personnes, vous pouvez le mettre directement à l'écart, même si elle est entrée. La personne, comme elle, vous pouvez la mettre à porte et pour dire que non, avec ça, elle risque de troubler l'ordre public et alors vous mettez à l'écart, mais avec une bonne psychologie, quand vous prenez encore avec du cristallisme, vous trouverez la dernière personne doit agir toujours avec du cristallisme.
Merci Lumabo. D'après vous, l'alcool est l'un des facteurs à la base de la violence dans le stade et qu'on devrait interdire l'accès à toute personne ivre. Monsieur Jétou, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, je commence tout d'abord par saluer notre invité et tous les auditeurs de la radio Capitaine. Ce n'est pas une question, c'est tout simplement un conseil que je voulais donner à nos auditeurs.
Oui.
Je suis à Kananga, j'étais là le jour des matchs. J'entendais toujours les gens parler que nous, on était partis quand on était à Mbujimayi. On nous avait fait ces choses-là. Alors pour moi, c'est le problème d'avoir seulement la patience, la modestie et l'autodiscipline. Puisque je me rappelle bien, il y a un savant appelé Gandhi, il a dit que en opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre en surface comme en profondeur. Donc pour moi, je conseille seulement aux gens de ne pas avoir une dent contre quelqu'un. Puisque le monde est petit.
Bien. Merci.
Donc, je veux dire seulement que il ne faut pas répondre en mal contre le mal. C'est seulement ça.
Merci. Merci, Jetou, depuis Kananga. Professeur Idelson, vous avez suivi Lumabo de Butembo. D'après lui, pour prévenir la violence dans nos stades, il faut refuser l'accès à toute personne ivre.
Oui, merci bien. Vous aviez bien intervenu. Vous posez la question de comment on peut établir l'ivresse, le trait de cette ivresse, et tout en sachant évidemment que cette ivresse peut l'être avant ou pendant le match. Hein. C'est-à-dire que les gens peuvent entrer et s'enivrer à l'intérieur ou boire à quelques minutes d'entrée au stade, passer inaperçu et s'enivrer, les effets de l'ivresse peuvent se manifester à l'intérieur. Donc, c'est en fait là, il y a toute la question de sensibilisation, tout ça. Mais ce qui est intéressant dans tout ce qui est dit, c'est que évidemment, il faut commencer par identifier des groupes qui
sont des fauteurs de troubles.
Pardon?
Identifier les groupes des fauteurs de troubles.
Oui, identifier effectivement d'individus qui peuvent être portés à une dangerosité potentielle, quoi. D'ailleurs, vous savez qu'on identifie ces groupes et ces groupes font l'objet d'une grande surveillance ou, comme on l'a dit, de l'interdiction d'accès. Vous avez toute la question des origines, etc. Mais la problématique, c'est de savoir effectivement ces groupes qui l'identifient et on les surveille comment. Et est-ce que l'interdit, ce n'est pas aussi provoquer un désordre potentiel? Parce que le désordre au stade, il faut le considérer à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du terrain. Parce que la propagation peut aller de l'intérieur vers l'extérieur, comme de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, tout cet environnement est à contrôler. Mais il faut se donner des moyens pour pouvoir contrôler. Et justement, il y a là toute la question de la formation de personnes qui doivent intervenir dans les dispositifs de sécurité.
Alors,
généralement, quand vous regardez les dispositifs qui est mis dans le terrain, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, la fonction, c'est plus une fonction dissuasive. Mais est-ce que la dissuasion peut suffire? Et quand, par exemple, vous voyez comment fonctionnent les dispositifs effectifs à l'intérieur des stades, vous avez des policiers qui donnent le dos au public. Et si le groupe qui présente la dangerosité est dans le public, évidemment, tout dépend de mission qu'on assigne à ce dispositif. Ça peut être que ce dispositif vient sécuriser les athlètes et les arbitres qui sont sur le terrain. Et d'ailleurs, pourquoi ils donnent le dos par moment au public, ça peut être qu'ils sont là pour seulement sécuriser les autorités, mais ils peuvent être là aussi pour la surveillance et le contrôle à l'entrée des billets, et etc., ou pour dépouiller les gens des objets qui pourraient être dangereux à l'accès au stade. Voilà, la grande problématique est là. Est-ce que on étudie véritablement ce dispositif pour bien le placer? C'est ça. Et s'il est là, quelle est sa fonction et quels sont ses objectifs qu'il poursuit?
Bien, nous avons un autre auditeur en ligne, Jérémy Hidot.
Et deuxièmement, on me dit qu'il y a des gens qui sont venus de Mbujima et qui disent qu'ils ont été battus, etc. Mais je l'ai dit, il y a la motivation, les facteurs, ça peut être l'injustice ressentie. Mmh. Et cette injustice ressentie peut amener des motivations de vengeance quand les gens viennent au stade.
Mmh.
Et ces motivations peuvent être par moment individuelles. Mais lorsqu'il y a un incident qui provoque une propagation d'actions parfois marquées par la violence, bien évidemment, cette violence peut être caractérisée par cette marque de vengeance.
Voilà. Voilà. Un autre auditeur en ligne depuis Bandelville, Jérémy Hidot, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Bon, je ne sais pas, ce n'est pas une question, je pense que je suis l'invité que nous éclairer. Bon, vous savez, lors des... Moi, je prends toujours l'exemple de match de football. Parce que tout le temps, lorsque vous êtes ensemble, il y a un match de football, par exemple, un match de football qui vient de Mazembe ou avec le bout de CMP. Donc, d'autres gens n'ont pas l'esprit là, donc le cœur de supporter les choses. Et que, donc, tout le temps, vous discutez, ils sentent que... Il vient dans un moment là qu'il ne peut pas supporter, donc il vous donne ou bien fou ou bien l'ingire là. Donc ça c'est une infraction, bien quoi, si l'invité peut nous éclairer à cela.
Professeur Hidesson.
Oui, les injures, c'est une forme de violence. La violence peut se présenter sous plusieurs formes.
Mm-hmm.
Et c'est une violence verbale. Et les grandes, le grand rassemblement de foule comme ça, notamment autour, il faut savoir que dans le stade, vous avez toujours des camps. Il y en a qui sont pour telle équipe ou telle autre, mais évidemment, il y en a aussi qui viennent pour assister au match pour l'enchantement, le plaisir de le voir.
Mmh.
Mais quand vous êtes dans ce sens-là, évidemment, la violence peut se manifester aussi par une violence tout à fait verbale. Et d'ailleurs, c'est celle-là qui est la plus caractéristique lors des rencontres sportives.
Oui.
Alors, sachant évidemment qu'on n'est pas loin de la violence physique qui se caractérise par les atteintes physiques, la bagarre, les casses, etc.
Oui, professeur Hidelfon, la violence, c'est pas seulement dans les stades, même lors des marches, d'une marche des militants, de tel ou tel. Lors des marches, on voit qu'il y a aussi des scènes de violence qui arrivent, ou lors d'un concert de musique, il y a de la bagarre généralisée. Alors, comment prévenir alors ce genre de violence dans tous ces rassemblements?
Oui, la première modalité de prévention, d'abord je voudrais revenir à la question architecturale et de l'environnement. Bon, comment est construit le stade? Il est situé où? Et dans son environnement, qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand vous dites, par exemple, on soulève la question de l'alcool, si autour des stades, c'est garni des endroits où les gens peuvent s'approvisionner en alcool très facilement, il est exclu qu'on devra contenir tous ces gens qui viennent, parce qu'il y en a qui peuvent boire et entrer, s'amuser à l'intérieur, etc. Mais au sein, c'est le même phénomène qui peut se remarquer dans des concerts ou ailleurs. Il y a toute la question d'abord architecturale. Est-ce que le milieu a été construit de manière où l'architecture permet à des dispositifs sécuritaires de bien fonctionner? Parce que ceux qui font l'architecture des stades, l'architecture des milieux de grandes manifestations, doivent effectivement prévoir ça.
Mmh.
Deuxième chose, il y a tout l'environnement, il y a tout l'aménagement autour. Comment sont conçues les avenues autour? Est-ce que ça permet aux dispositifs sécuritaires de bien fonctionner ou non? Toutes ces choses-là doivent entrer en compte lorsque on voudrait vraiment prévenir toutes les questions de violence. Parce que évidemment, ces milieux sont de forts milieux de concentration et qui sont liés à, qui sont marqués par des phénomènes psychologiques, notamment l'enthousiasme. Il n'y a pas que la violence, il y a aussi l'enthousiasme de bien participer.
Mm-hmm.
Mais la violence n'est pas aussi exclusive. Il donne dans toute cette architecturale comportementale.
Marcel, voilà, un autre auditeur depuis qu'il s'engagne, Marcel Zouma, bonjour.
Oui, bonjour, la radio Copé.
On vous écoute.
Oui, ok, merci. Je salue d'abord l'invité et je salue tous les auditeurs de la radio Copé. Et à cette question, je voudrais intervenir dans deux volets. D'abord, le premier volet, c'est de définir les règles du football. C'est-à-dire, il faut que les supporters arrivent à savoir et à comprendre que quand on est dans un match de football, on est en face de trois situations. Soit que le score peut se sauver à votre défaveur, ou soit à votre faveur, et parfois le score peut aussi être paritaire. Alors, quand on intériorise déjà ces règles de jeu, bon, je ne pense pas que dans l'avenir, il y aura alors de telles violences pendant les différentes rencontres. Et pour que les supporters arrivent à intérioriser cela, donc ça demande une forte mobilisation, une forte sensibilisation. Donc, toutes les équipes qui seront engagées doivent déjà sensibiliser chacune ses supporters. Et dès que les supporters se seront fortement sensibilisés, je crois qu'à ce niveau-là, on peut arriver à mettre hors d'état de nuire toutes les violences qu'on constate pendant les différentes rencontres. Et autre proposition, c'est que je voudrais dire que il faut aussi faire en sorte que à chaque fois qu'il y aura des telles violences, que l'on arrive à bien cibler. S'il arrive, par exemple, que ce sont des supporters de telle ou telle autre équipe qui ont commis des violences, donc on commence désormais à sanctionner les équipes, lesquelles équipes les supporters auront entraîné des violences, et comme ça, ça fait décourager les supporters en voyant leurs équipes sanctionnées, soit même suspendues de la compétition, pour que dans l'avenir, qu'ils prennent déjà des précautions pour ne pas se livrer à des faits violentes. Voilà le fait que j'avais.
Merci, Marcel Zouma.
C'est en plus ce fait que l'invité venait de dire.
Merci, Marcel. Professeur Ibelfrance, Marcel nous dit pour prévenir la violence dans les stades, il faut intérioriser les règles des jeux, sensibiliser les supporters et sanctionner les équipes dont les supporters se sont méconduits.
Oui, justement, il a raison. La sensibilisation en amont est très importante. Dans le cadre de la prévention, évidemment, il faut sensibiliser les gens à comprendre que le stade, c'est un milieu, comme il est dit. Mais ça, c'est une approche aussi trop angélique, quoi. Il ne faut pas penser que les gens qui s'adonnent à la violence au stade ne sont pas toujours, ils sont tous inconscients. Mais il faut considérer le phénomène de foule dans lequel se retrouvent les uns les autres, qui est, au fait, qui caractérise un certain type de comportement. En fait, qui se caractérise par un type de comportement. Et donc, il faut vraiment pas penser qu'il suffit d'amener au stade de bons citoyens comme vous le pensez pour qu'on n'assiste pas un jour à des scènes de violence. Bon, voilà. Mais toute la question de sensibilisation à sa place. Mais je vous ai dit, par exemple, qu'il y a des événements imprévisibles qui se produisent dans un point et qui ont toute la possibilité de propagation et parfois générer des actions collectives, tout au moins passagères, mais parfois très paroxystiques. Donc, il y a ça qu'il faut faire, mais il faut considérer que les gens, quand ils sont dans cette foule au sein de stade, ils représentent un environnement potentiellement dangereux aussi ou violent. Et ça, c'est important pour savoir comment on fait fonctionner les dispositifs de sécurité pendant que les gens sont caractérisés par tous ces effets de phénomènes de groupe ou de foule. Donc, évidemment, il y a la prévention, il parle de la sanction. C'est bien, le système répressif, il peut être là. c'est un système qui peut fonctionner. Les systèmes de prévention peuvent aussi fonctionner. Mais il faut savoir dans les deux cas que, par exemple, les sanctions, il ne faut pas que ces sanctions amènent des contre-effets parce qu'à un certain moment, vous pouvez penser résoudre un problème alors que vous en créez encore d'autres. Donc, il faut évidemment que ces sanctions soient raisonnées et au fait, lorsque vous punissez, vous donnez une punition collective à une équipe, ça a quel impact sur des individus? Tout en sachant que tous ces gens-là qui viennent, ils sont supporters, vous pouvez dire supporters, mais à quel degré? Est-ce que tout le monde est véritablement supporter au degré où on le pense de telle ou telle équipe? Donc, ça peut ne rien dire aux individus qui ont commis ça. Et ça peut retomber sur des équipes, évidemment, en termes de charges, etc. Mais ça peut, par exemple, inciter les équipes à faire fonctionner des dispositifs sécuritaires qui fonctionnent de manière informelle. Et d'ailleurs, dans la gestion sécuritaire de stade, tout ce qui se remarque, c'est qu'on compte plus sur les dispositifs étatiques. On va mobiliser, on va concentrer au stade un fort effectif, un grand effectif de policiers. Mais ça peut avoir d'autres inconvénients. C'est que lorsque vous concentrez tout le policier au stade, mais sachez que la ville peut être dégarnie aussi à un certain moment, représenter des situations de potentielle insécurité de la ville.
Voilà.
Mais la question, c'est de savoir comment on met à contribution d'autres dispositifs de sécurité qui peuvent fonctionner en cachant l'anonymat dans lequel se retrouvent certains groupes et les mettre à contribution pour la gestion des stades.
Oui.
Ailleurs, on a développé tout l'arsenal de la vidéosurveillance, etc., qui fonctionne et qui peut être prédissuasif.
Voilà. Professeur Idelfons, je me rappelle que vous avez dit au début, au départ, lorsqu'il y a une foule, il y a souvent une sorte de charge émotionnelle qui peut être contagieuse et qui peut avoir contagion des émotions. Alors pour prévenir ces scènes de violence, il faut d'abord identifier les groupes dangereux, les surveiller, et puis il faut un dispositif de sécurité, il faut voir l'architecture de l'environnement où se déroule l'événement et puis la sensibilisation au préalable. Alors pour les organisateurs d'une marche, par exemple, une marche pacifique, et puis à un moment, on ne sait jamais, ça peut dégénérer. Comment prévenir alors des scènes de violence au cours d'une marche, par exemple?
Oui, ça, peut-être qu'on ne l'a pas assez dit. Les États s'organisent pour mettre sur pied En fait, il faut comprendre que la police, par exemple, quand vous prenez la police, toutes les unités de police ne sont pas... ne sont pas destinés à gérer des mouvements de foule ou des manifestations, des grandes manifestations. Il y a des unités spécialisées qui sont formées à contenir des foules, à contenir des manifestations. Mais là, il faut faire une part des choses. Une manifestation, il ne faut vraiment pas la confondre aussi avec une foule. La manifestation peut être un groupe de gens qui viennent, il y a un objectif précis, ils viennent, c'est un groupe politique, ils vont manifester, c'est un défilé. Tout cela est bien encadré par les services de l'ordre, etc. Mais évidemment, comme je l'ai dit, les dispositifs sécuritaires qu'on place, il est là dans quel objectif? Il surveille quoi? Il protège qui? Ça, c'est important. Si c'est un dispositif qui protège l'autorité, si c'est un dispositif qui protège les défilants, et donc c'est un dispositif qui va fonctionner avec des cibles précises. Mais les dispositifs peuvent être orientés de manière à surveiller aussi des potentiels groupes qui peuvent, en dehors du groupe qui défile, qui peuvent être à la base des dérapages quelconques. Par exemple, vous êtes chez les groupes qui défile, et à côté, il y a des gens qui lancent des pierres sur un groupe, etc. Ça peut dégénérer. Ou alors, c'est un groupe qui défile, mais évidemment, une manifestation peut avoir certaines caractéristiques de la foule. Notamment, la décharge émotionnelle peut être là présente. Mais l'idée ici, c'est que vous avez un groupe de gens qui vont pour un objectif et qui sont bien encadrés, etc. Donc, il y a à différencier la manifestation bien encadré, bien ordonné, avec la situation de foule telle que se produit, par exemple, dans un stade ou autour d'un événement où on vient de connaître quelqu'un, etc. Des attroupements spontanés qui se créent. Donc, les dispositifs sécuritaires étatiques, par exemple, ils prévoient des unités spécialisées qui subissent une formation spécialisée pour pouvoir gérer et contenir de telles manifestations.
Bien, professeur Idelfrance, finalement, on s'arrête là pour aujourd'hui. Nous rappelons que vous êtes psychologue et criminologue à l'Université de Lubumbashi. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des réfugiés et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un geste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte. Les cocktails de l'après-midi sur Radio Okapi.